Pour moi, c'était une grande joie d'entendre ces chants qui nous parlent non seulement de l'amour de Dieu, mais surtout de sa fidélité. Et vous savez, quand le Saint-Esprit parle, il parle toujours avec justice, avec justesse. C'est ça qui est important de comprendre. Et j'ai aimé beaucoup ces chants. Pourquoi ? Parce qu'ils vont être un peu en rapport avec la prédication, le message que Dieu a mis sur mon cœur de vous porter ce matin. Peut-être déjà on pourrait mettre le titre du message. C'est déjà fait. L'appui parfait. Et le seul appui parfait, on sait que c'est le Seigneur. J'ai pris deux versets. Un dans le Cantique des Cantiques, c'est un livre qu'on n'a pas l'habitude de lire beaucoup, ou qui est très difficile à trouver, mais en même temps, dans ce livre Cantique des Cantiques, il y a des versets qui ont une valeur, qui peuvent encore aujourd'hui nous marquer et nous amener un peu plus loin. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé. Je ne sais pas si vous avez fait attention à travers les Cantiques, il a été parlé souvent du désert. Et puis le deuxième verset, c'est, on le trouve dans l'Apocalypse, « Viens et je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » On sait que l'épouse, bien sûr, c'est l'église du Dieu vivant qui est toujours en train de monter du désert, de ce fameux monde actuel, et elle est appuyée sur son bien-aimé, et les gens du monde continuent à se demander qui elle est. C'est vrai que dans ce verset du Cantique des Cantiques, on pourrait se demander qu'est-ce que c'est qui est surprenant dans cette montée du désert. Mais lorsqu'on parcourt la parole de Dieu, on s'aperçoit que le désert est souvent mentionné. Vous prenez l'Ancien Testament, vous prenez le Nouveau, le désert est souvent mentionné. Et on peut dire aussi que c'est un passage obligé pour arriver dans le royaume de Dieu. Il y a deux façons de marcher dans le désert. La première façon, c'est lorsque Dieu nous conduit dans le désert. Et à ce moment-là, quand il nous conduit dans le désert, c'est pour nous parler, c'est pour se révéler. Et puis, bien sûr, la deuxième façon, c'est quand nous y entrons nous-mêmes à cause de nos problèmes. Et à ce moment-là, on sait que la situation va être difficile. Dans la Bible, on s'aperçoit que ce fameux désert, c'est le peuple juif qui déjà a pu connaître ce désert. Lorsque le peuple de juifs sort d'Égypte, qu'est-ce que fait Dieu ? Il le conduit dans le désert. Mais le désert, il le conduit pas pour rester dans le désert, mais en vue de la terre promise. Mais on sait que, malheureusement, et comme ça se produit souvent même pour nous-mêmes, nous sommes rebelles à la parole de Dieu et à ce qu'il dit. Et on sait bien sûr que ce fameux peuple juif, cette génération-là, n'a pas pu aller dans la terre promise. Ils sont morts dans le désert, après avoir tourné pendant 40 ans. Le Seigneur Jésus, dans son début du ministère, on le voit lui aussi, à peine baptisé, rempli du Saint-Esprit, conduit dans le désert, où pendant 40 jours, il va jeûner. La différence entre ces deux déserts, si on peut dire, c'est que lui a résisté. Il a résisté au diable. D'ailleurs, c'est à relire ce passage de Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. Vous allez voir que par trois fois, le diable vient avec la parole. C'est ça qui est terrible. Il vient avec la parole. Mais Jésus confirme que la parole dit que... Il y a une autre façon aussi d'aller dans le désert, et on le voit à travers un homme, un évangéliste, qui s'appelle Philippe. Pour les Philippes qui sont là. Hein. Oui. Mais Philippe, lui, se retrouve dans une grande ville de Samarie, où il annonce la parole de Dieu. Et on s'aperçoit que cette parole de Dieu qu'il annonce produit quelque chose de formidable. Une très très grande joie se manifeste dans cette grande ville. Mais voilà qu'un ange se présente à Philippe et lui dit « Va, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. On pourrait se dire, réaction normale, Philippe est en train de faire un travail pour Dieu, formidable dans cette ville, où les gens se convertissaient, où les malades étaient guéris, les boiteux marchaient, les aveugles voyaient. Vraiment, c'est une manifestation de puissance qui se passait là. Philippe, lui, est insensible à la voix de l'Esprit. N'hésite pas. Il fait ce qu'il a entendu et il obéit. Et nous savons que lorsqu'il va dans ce fameux chemin qui mène au désert, la seule chose qu'il rencontre, c'est un homme, un eunuque éthiopien, ministre de Candace, qui revient déjà de Jérusalem et qui est en train de faire la lecture de la parole dans le livre d'Ésaïe, et il ne comprend pas ce qu'il lit. Et on sait que Philippe va lui expliquer, à partir de là, pour l'amener jusqu'à Jésus. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse, parce qu'elle est importante. C'est que ce ministre de Candace a compris le message de Dieu, déjà, premièrement. Deuxièmement, ils arrivent à un endroit où il y a de l'eau. Et il dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Vous savez, bien souvent, on a du mal à passer par les eaux du baptême. On dirait que c'est quelque chose de terrible. C'est pareil, on va se trouver séparé de la vie que j'avais. Cet homme dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe va lui dire, mais si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, c'est possible. Et il dit, mais je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il nous a dit qu'ils descendirent tous les deux dans l'eau. Je ferme la parenthèse. Et on va s'apercevoir après que cet homme s'en va tout heureux d'avoir pu être au bénéfice de l'amour de Dieu. Mais si on revient à ce verset du Cantique, nous voyons que celle qui chemine dans le désert, premièrement, c'est une inconnue. Qui est-elle? Vous savez, ceux qui ne connaissent pas le bien-aimé ne connaissent pas non plus ceux qui sont siens. Dans la prière de Jésus, dite la prière sacerdotale, qu'on retrouve dans l'évangile de Jean, verset 14, il est dit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » À la place du mot « monde », mettez « désert ». Et verset 16 va dire, et là je vais rajouter ce fameux mot « désert hein, » à « monde », ça c'est moi qui le fais, hein. « Ils ne sont pas du désert, j'y dis Jésus, comme moi je ne suis pas du désert. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le désert, je les ai aussi envoyés dans le désert. » La deuxième chose qui est importante à voir dans ce verset, son bien-aimé, c'est quelqu'un qu'elle ne quitte pas. Elle est appuyée sur lui. C'est quelqu'un d'incomparable, ignoré, méprisé et rejeté. Mais pour elle, c'est le trésor unique. Il est le plus beau, il a son charme, l'a atteint au plus profond de son âme. C'est le langage de la passion. Si vous lisez ce livre des Cantiques et Cantiques, il y en a qui sont outrés en disant ça. Ça a été toujours, dans les années qui nous ont précédé, un moyen pour les incroyants de dire « Oui, mais c'est un livre pornographique. » Oui, ils allaient très loin. Et pourtant, on découvre à travers ce livre des cantiques la manifestation de l'amour poussé à l'extrême. Hein? Vous savez, ce qui peut paraître étrange, c'est le lieu de cette réjouissance, le désert. Le désert est le lieu de communion. Ça paraît étonnant. Le désert est le lieu de communion. Le Seigneur se retirait souvent dans le désert pour prier avec son Père, pour être dans cette communion particulière qui permettait que justement il y avait une manière de se ressourcer. Et dans Matthieu 6:6, Jésus fait une recommandation. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le désert. Mais si, oui, parce que c'est le lieu où on se retire. Il nous a dit, quand tu pries, va dans ta chambre. Ferme ta porte. et prie ton Père, qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et vous savez, la porte, c'est souvent notre cœur. Ce n'est pas qu'une chambre réelle, mais si dans ton cœur, tu t'enfermes avec le Seigneur, et là, face à face, tu fais part de tes besoins, le Père te le rendra. Dans le livre d'Osée, qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, il y a un verset que j'aime beaucoup aussi. C'est Osée 2, verset 16. « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » C'est ça que Dieu veut faire. Il veut nous conduire dans le désert, mais pas pour rien. Il veut nous conduire pour justement nous montrer qu'est-ce qu'il peut attendre de nous, qu'est-ce qu'il veut faire avec nous, et qu'est-ce que lui fait avec nous. Vous savez, le désert, c'est toujours l'épreuve dans notre vie spirituelle, du fait qu'on se retrouve dans cette terre. Cependant, c'est là que le Seigneur se fait le mieux entendre, combien notre oreille de la foi doit être sensible dans ces moments-là, parce que Dieu ne parle jamais en vain. Vous avez le jeune Samuel dans l'Ancien Testament, où il dit que toutes les paroles que Dieu lui donnait, il n'en laissait tomber aucune à terre. Aucune. Il les recevait. Il est comme un vase qui reçoit l'eau. Dieu, quand il parle, il veut que d'abord nous écoutions. Et ce n'est pas souvent le cas. Des fois, Dieu nous parle. Et on dit, Dieu ne me parle pas. Parce que notre esprit est occupé souvent ailleurs. Mais quand Dieu nous parle, c'est pour notre bien. Il veut nous faire franchir d'autres étapes dans notre marche avec lui. Pour que la communion se réalise à deux, parce que le Seigneur la veut, est-ce que nous la voulons aussi? Nous pourrions encore parler du désert, mais je pense que l'attitude de cette voyageuse du désert peut nous intéresser pour notre marche de chaque jour. La première chose, elle est consciente de sa faiblesse. Et nous savons que s'il y a quelqu'un qui a été conscient de sa faiblesse, c'est l'apôtre Paul, hein, qui va dire « quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Et on sait que cette parole, il l'a dite parce qu'il avait une blessure, quelque chose qui l'avait marqué dans son corps. On sait qu'il a demandé au Seigneur qu'il le libère, et le Seigneur lui a dit « non ». Ma puissance se manifestera dans ta faiblesse. Il y a aussi l'exemple de Pierre marchant sur les eaux. J'aime beaucoup aussi ce passage de Pierre quand il marche sur les eaux. On s'aperçoit que Pierre, tant qu'il a marché sur la parole, il a marché sur les eaux. Si je vous dis ça, n'essayez pas de le faire quand même, à moins que le Seigneur vous le demande. Mais Pierre a marché sur les eaux. La seule chose qui est arrivée à Pierre, c'est qu'à partir du moment où il a commencé à porter un regard, non sur le Seigneur, mais sur son environnement, sur les éléments. Et là, il a dit qu'à partir de là, il a commencé à s'enfoncer. Mais il y a une petite parole. Hein. C'est que Pierre, quand il a vu qu'elle s'enfonçait, et ça, si je lis ça, c'est parce que je me sens concerné. Hein. Moi-même, des fois, je n'ai pas crié à Dieu à ce moment-là. Vous savez, vous êtes pris dans une épreuve que vous sentez que vous enfoncez. Il a crié « Viens, mon secours ». Et croyez-moi, quand on appelle le Seigneur au secours, il intervient. Et c'est ce que Pierre a été bénéficiaire. Notre point qui concerne cet inconnu dans le désert, c'est le besoin d'être dirigé. On a besoin d'être dirigé. On ne peut pas marcher par soi-même. On ne peut pas marcher en disant « mais oui, moi je suis assez grand, j'ai une certaine connaissance, je peux maintenant marcher ». Non, on a toujours besoin que le Seigneur nous conduise. Pourquoi ? Parce que le désert parle de perdition, pas de point de repère. Tout se ressemble. Et combien la parole est importante pour donner l'orientation dans notre vie, afin de ne pas être entraîné à tout vent de doctrine, vous savez. Je n'ai pas besoin de vous dire ça, mais on est dans un monde spirituel, dit spirituel, où alors on s'aperçoit qu'il y a toutes choses qui sont complètement contradictoires avec ce qui est écrit. C'est important de connaître la parole. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été toujours très important. Parce que ça m'a permis justement de, quand j'entends quelque chose, de dire « Ah non, je regrette, la parole dit ça, ce n'est pas juste. » Et ça, c'est important. Moi, je vous incite, j'emploie bien un terme fort, à lire la parole de Dieu. Non seulement à la vivre, bien sûr, mais à la lire pour la comprendre, pour vraiment la magasiner. On mange tous les jours du pain. Enfin, il y en a peut-être qui ne mangent pas du pain, mais vous mangez quand même. On mange. Eh bien, c'est pareil. On ne peut pas vivre une vie chrétienne si on ne se nourrit pas de cette parole. On peut dire que quand on parcourt la parole de Dieu, on s'aperçoit que les hommes de Dieu, jusqu'à Jésus et ensuite les apôtres, se sont toujours appuyés sur la parole. Pour non seulement annoncer la bonne nouvelle, mais aussi pour résister face à l'ennemi de notre âme. Un autre point que l'on découvre par rapport à cet inconnu, elle a une confiance absolue en lui. Et ça, c'est important. Se confier en lui, en tout temps, dans les bons jours et dans les mauvais. Elle ne doute pas ni de son amour, ni de sa fidélité. Elle s'appuie totalement. Comment douter de celui qui s'est offert pour nous et nous fait grâce de nous pardonner et de nous sauver. Et tout cela gratuitement. C'est vrai que nous sommes appelés à vivre pleinement ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est le prophète Ésaïe qui va dire une parole dans Ésaïe 30, verset 15. Il dit ceci, « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Voyons un dernier point de sa position à cette fameuse inconnue. Elle jouit d'une intimité bénie. Plus on est près du Seigneur, plus la bénédiction coule. C'est l'apôtre Jean qui connut un tel privilège d'être tout près de Jésus. On le sait. On sait qu'il est fait mention le disciple que Jésus aimait. Et je me rappelle que quelqu'un avait posé un jour cette question en disant « Mais est-ce que Jésus aimait plus Jean que les autres ?» Et la réponse qui a été donnée, et que j'ai trouvé bien, ce n'est pas une question d'aimer, l'aimer plus dans le sens comme on le connaît, mais il avait plus de communion avec. Et c'est ça, la communion. Aimer, c'était avoir cette communion personnelle. Et on sait que Jean était toujours près de Jésus. C'était lui. D'ailleurs, quand il y avait une question à poser, les autres disciples disaient à Jean, « Pose la question. » Dans Jean 15, vous connaissez ça aussi, bien sûr, le cep et les sarments, on parle de cette relation du Seigneur, Jésus, et on s'aperçoit qu'il y a deux choses importantes dans ce passage du cep. Et je ne fais pas référence au cep d'ici. Mais je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le deuxième, au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. » Et il termine par le verset 11, « Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Alors la question qu'on peut voir encore avec cet inconnu, où se rend-elle, celle qui monte du désert? Où va-t-elle comme ça? Une remarque. Son chemin est montant. Deuxièmement, il va dans une seule direction. Et cette direction, on sait que c'est la cité céleste, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Jésus a promis à ses disciples, avant de partir, avant de monter au ciel, il a promis qu'il allait leur préparer une place, car dans la maison du Père, il y avait plusieurs demeures. Jean 14, verset 2. Il est vrai que le chemin qui nous est proposé à chacun et à chacune est étroit. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui peut nous amener à la vie éternelle et qu'il y en a peu qui le trouvent. Alors, l'interrogation qu'on pourrait Osée, pour terminer, sommes-nous de ceux qui, comme cet inconnu, nous sommes appuyés sur le Seigneur? Sommes-nous de ceux qui, fidèlement, nous marchons à sa suite? Et sommes-nous de ceux qui, l'amour que nous lui donnons, correspond à ce qu'il est? Voilà, je vous propose de prier, pour terminer. Merci Seigneur parce que ta parole est là pour nous rappeler que tu es cet appui parfait et que malgré que nous soyons sur une terre qui est un véritable désert, tu as permis Seigneur que nous puissions en sortir tout en restant bien sûr sur cette terre, mais surtout de marcher à ta suite, de marcher appuyé sur toi, afin que notre marche, Seigneur, qui n'est pas toujours, bien sûr, faite sur un nuage, mais qu'au contraire, nous savons les épreuves de la vie, tu nous permettes, Seigneur, de vaincre et de sortir vainqueur de l'épreuve. Je te prie, Seigneur, pour que ensemble nous puissions marcher comme cela, Seigneur, que nous puissions avoir nos regards portés toujours sur toi, sachant que, Seigneur, tu nous as précédés et tu nous as montré la voie à suivre. Alors bénis-nous, Seigneur, ensemble, et que notre marche puisse se réaliser, afin que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Amen.
Merci pour ce qui nous a été partagé ce matin. C'est intéressant parce qu'on a presque des températures de désert en ce moment. Mais dans le désert, non seulement il fait encore plus chaud, mais en plus, il y a encore moins d'eau que chez nous. Brian m'a fait dire que les notes du message de dimanche passé sont à disposition, donc ceux qui les veulent, vous pouvez simplement les lui demander. Le programme de la semaine est déjà allégé, c'est un programme d'été déjà qui commence. On vous propose malgré tout de nous retrouver mardi soir pour une réunion de prière. C'est important de prier, surtout avant la semaine du club d'été. Alors on vous invite à vous retrouver, à nous retrouver ici. Au sous-sol, il fait un petit peu plus frais, c'est sympa, c'est propice peut-être à la prière aussi. Mais on trouve que c'est important de prendre ce temps avant l'été et avant une semaine importante aussi. Jeudi, il y a une rencontre de la commission de travaux. Ça suit son cours petit à petit. Dimanche prochain, le culte ici. Dimanche prochain, à 14h, il y aura aussi la dernière rencontre de préparation du club d'été. Alors, toutes les personnes impliquées dans le club d'été sont les bienvenues. C'est même important qu'elles participent pour que tout soit bien calé, qu'il n'y ait pas de surprise de dernière minute, que tout se déroule bien. Sinon, une nouvelle qui est triste, c'est le fait que la maman de Florence Skates est décédée. Josiane Sbinden-Guérin est donc décédée vendredi, le 3 juillet, dans sa 74e année. Alors Florence remercie vraiment toutes les personnes qui l'ont aidée, qui ont prié pour elle pendant ce moment difficile, qui lui ont aussi donné des mots de soutien. Elle était très sensible à cela et elle m'a demandé de vous remercier pour cela. La cérémonie aura lieu le 6 juillet, donc demain matin à 10h, au cimetière de Saint-Georges, dans la chapelle de l'Ange de la Consolation. C'est important aussi de soutenir ceux qui passent par le deuil, par la séparation dans ces moments-là. La chapelle de l'Ange de la Consolation au cimetière Saint-Georges, lorsqu'on rentre par l'entrée principale, elle est tout au bout. Tout au bout de l'entrée principale, si quelqu'un voulait venir, moi je vais y aller, vous pouvez me le dire, on peut aller ensemble, pourquoi pas. Des nouvelles de Didier. Didier est parmi nous, ça va bien. Il reprend le boulot demain, donc c'est important aussi de continuer à penser à lui, de continuer à prier. Didier est en attente des résultats. C'est aussi une période toujours délicate, l'attente des résultats. C'est important aussi de prier pour cela. Sinon, cette semaine, on vous invite à prier pour les chrétiens qui sont dans le pays des Émirats Arabes Unis. Voilà, alors les Émirats Arabes Unis, c'est le pays en numéro 49, voilà, juste à côté de l'Arabie Saoudite. Les Émirats Arabes Unis sont l'un des pays les plus libéraux du Golfe. Les expatriés, par contre, constituent près de 80% de la population. Pour 9,6 millions d'habitants, il y a 1,2 million de chrétiens. C'est beaucoup. Toutes dénominations confondues. Ces chrétiens font principalement partie de ces expatriés qui viennent pour travailler aux Émirats Arabes Unis. La Constitution prévoit la liberté de religion à condition que les coutumes, la politique publique ou la morale ne soient pas bafouées. Mais dans la pratique, le gouvernement limite très nettement cette liberté religieuse. Alors qu'on nous signale peu de violences religieuses, il existe, et c'est ça qui est important de retenir, de grandes différences de traitement selon qu'on est chrétien expatrié ou chrétien d'origine musulmane et natif du pays. Il existe effectivement très peu de chrétiens issus de la population locale, ces derniers devant cacher leur foi pour se protéger. Ces derniers subissent de fortes pressions, de fortes tensions de la part de leur famille. Tous les citoyens sont considérés comme musulmans et la loi leur interdit de changer de religion sous peine de mort. Et donc l'extrémisme islamique et la paranoïa dictatoriale sont les principales sources de persécution aux Émirats Arabes Unis. Sinon, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore deux. Oui, oui, juste. Alors, il y a eu une inscription au fond de la salle, sur le tableau, pour s'inscrire l'apéritif du 17. Donc, le 17, le dernier jour du club d'été, en fin de journée, il y a un apéritif. Et c'est important aussi qu'il y ait des personnes qui puissent préparer. Donc inscrivez-vous, il y a le panneau au fond. Oui, j'en attends, oui.
Excuse-moi de couper, mais nous avons entendu que l'équipe d'aménagement de l'église de Pepsin, c'est légendaire. Donc, vous pouvez venir quand on a une date de déménagement qui est le 18 juillet, dans l'aménage de Toiry à Pepsin.
D'accord, ouais. Waouh. D'accord, donc le 18 juillet, le lendemain de la fin du club d'été, on sera encore bien chaud, on sera encore dans la dynamique. Donc vous déménagez, vous avez besoin d'un coup de main. Ok, merci. Oui. Oui. Voilà. D'accord. Ouais. Merci. Donc je vous invite à vous lever. Je vous lis encore deux versets qui sont dans la fin du livre de Job. Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et c'est vrai que ce temps d'été soit pour chacun l'occasion de mieux connaître son Dieu, de le voir dans la création, mais de le voir aussi à l'œuvre dans nos vies, chaque jour, à chaque instant. Amen. Soyez bénis.